Actu SF. Les podcasts.
Eh bien, bonjour. Je vais donc vous parler aujourd'hui des dragons. Le dragon est sans doute l'animal fantastique le plus célèbre. Quand on parle de dragon, on voit ça. Alors j'espère que c'est la première fois que je fais un PowerPoint, donc j'espère que toutes les images vont être bien dans cette grandeur-là. C'est énorme, ça. On verra. Hein. Celui-là passe pas trop mal. Donc celui-là, c'est un dragon de blason du XVIIe siècle. Donc voilà un petit peu comment on se représente le dragon, c'est-à-dire une espèce de gros lézard, là, de gros saurien, avec des pattes, deux la plupart du temps, des ailes. Alors la langue qui pique comme ça est remplacée de nos jours par le feu, et pas que de nos jours d'ailleurs, le dragon crache du feu. Donc voilà l'image que l'on se fait aujourd'hui du dragon, mais d'où vient cette image? Et qu'est-ce qu'un dragon? Eh bien, je vais vous le dire parce que j'ai mené l'enquête. Donc je vais déjà vous parler des grands ancêtres du dragon. Donc nous allons voir une image. Donc le mot dragon vient du latin draco, qui est un mot qui lui-même vient du grec drakon et veut dire la fixité du regard chez le serpent. Virgile, poète du 1er siècle, comptait trois sortes de dragons. Les anguilles, les dragons marins, les dracos, bien sûr, qui étaient des dragons sacrés, consacrés à des dieux, et les serpentes, qui étaient des dragons qui rampaient, serpentérés d'ailleurs, veut dire ramper. Alors, sur cette image, on la voit bien, l'image bon. Donc, sur cette image, qui est un vase grec du VIe siècle, on peut voir le héros grec Cadmos, fils du roi de Tyre en Phénicie, qui affronte le dragon de Mars alors qu'il est allé fonder la cité de Thèbes. Et ce dragon est bien un gros serpent. Un gros serpent dont, nous dit le texte, l'haleine est pestilentielle. On parlera beaucoup de l'haleine du dragon, c'est d'ailleurs cette haleine qui, à mon sens, donnera après le feu du dragon. Les récits mythologiques gréco-romains qui évoquent des dracos, donc des dragons, parlent toujours de serpents. Toujours. Et les représentations que l'on en a de ces dragons sur des poteries, comme ce vase grec, ne laissent aucun doute sur le fait qu'il s'agit de grands serpents. Donc ces grands serpents sont évidemment les ancêtres des dragons. Au 1er siècle de notre ère, le savant romain Pline le Jeune consacre un chapitre aux dragons dans son Histoire naturelle. Il évoque leur combat avec les éléphants de l'Inde et il écrit « Le draco prévoit le danger et tout d'abord il lui enlace à l'éléphant les jambes avec sa queue. L'éléphant défait les nœuds avec sa trompe, le dragon enfonce sa tête dans les narines de l'éléphant et à la fois lui ferme la respiration et le blesse dans les parties les plus délicates. » Encore une fois, nous sommes bien en présence d'un dragon et nous allons voir sur l'image suivante, qui est une miniature du XIIIe siècle, qui reproduit le texte de Pline, qu'en fait, le serpent que décrit Pline, eh bien, est représenté comme une espèce de dragon. Donc ça ne correspond pas du tout au texte. Il faut savoir d'ailleurs qu'à l'époque de Pline, et même plus tard, l'éléphant est un animal aussi mystérieux que le dragon. Alors, nous allons voir une autre image. Voilà, donc au Moyen-Âge, les récits antiques qui décrivent des serpents sont toujours, comme on l'a vu, sur l'image précédente, sont toujours illustrés par des dragons tels qu'on se les représente, c'est-à-dire des espèces de gros lézards avec ou sans ailes, mais en tout cas des bêtes. Il en va de même pour les exploits des saints vainqueurs de dragons. On a énormément de récits à partir du 5e siècle, de récits inventés, hein, de saints qui vont vaincre les dragons, énormément. Et en fait, c'est logique, parce que pour imposer la nouvelle religion, il fallait absolument trouver à ces nouveaux héros des exploits qui étaient à la hauteur des exploits des héros de l'Antiquité. Du coup, vaincre le dragon fait partie de ces exploits. Sauf que les saints du christianisme ne vont pas tuer les dragons, ils vont les dompter. Ils vont les dompter parce que très vite, ce dragon va représenter l'image du diable et que du coup, on ne tue pas le diable, mais on le dompte, et on le dompte à l'aide des emblèmes sacerdotaux. Ça va être une étole, par exemple, l'étole que porte le prêtre, qu'on va poser sur le dragon, ou alors un signe de croix qui va dompter le dragon, lequel dragon, évidemment, est très méchant, mange des gens, etc. Alors, ces saints donc, sont très nombreux, Saint Georges, Saint Marcel, Sainte Marguerite, Saint Sylvestre, qu'on voit là, Victor Romain, je crois qu'en France, il y en a plus de 50. Hop, j'en suis où ? Donc là, oui, on voit Saint Sylvestre, c'est une miniature du XIVe siècle, on voit Saint Sylvestre, que nous fêtons le 1er janvier, Saint Sylvestre, évêque de Rome, qui tue un dragon. Donc on voit que ce dragon, il est un peu bizarroïde, c'est une espèce de bête avec des oreilles pointues ou des cornes. Alors, les premiers zoologistes de la Renaissance feront aussi une place aux serpents dans leur chapitre sur les dragons. Alors, nous allons voir... Ah, on ne voit pas la tête. C'est dommage parce que c'est la tête qui m'intéresse. Pas grave, parce que c'est un serpent à tête de chien qui est présenté par un zoologiste italien qui s'appelle Ulisse Aldrovandi en 1640. Ces zoologistes publient aussi des témoignages, c'est-à-dire que ces serpents, comme ce sera le cas aussi pour les dragons, ne sont pas seulement des chimères antiques, mais ils disent qu'en fait des témoins de leur temps, au XVIe et au début du XVIIe siècle, en ont vu. Donc, voici quelques témoignages. À la fin des années 1660, on vit en Suisse, dans le canton de Zurich, un serpent à tête de chat. Donc, celui-là a une tête de chien. Voilà donc le témoignage recueilli à son propos par un savant helvétique. Jean Tiner, du bourg de Frumsem, je ne sais pas si on dit comme ça. Homme de probité, digne de foi et qui est encore vivant, m'a affirmé avoir été, il y a environ 12 ans, vers la fin d'avril, sur la montagne de Frunzenberg, et y avoir vu un serpent horrible, la tête élevée sur différents plis tortueux que formait son corps, d'une couleur mêlée de gris et de noir, de la longueur de 7 pieds pour le moins, avec une tête ressemblant à celle d'un chat et sans pieds. Il l'avait blessé d'un coup de musquet et avait achevé de le tuer avec l'aide de son frère, blablabla. Ces serpents monstrueux vont continuer longtemps d'effrayer le peuple. Et Georges Sand, en France, donc, écrit en 1858 « On se soucie peu des milliers de vipères qui vivent dans les rochers et qui, dit-on, n'ont jamais fait de mal à personne. Mais le serpent de 40 pieds de longueur et qui a la tête faite comme un homme est celui dont on se préoccupe. C'est probablement le même qui, dans les temps anciens, mangea 3 prisonniers dans le cachot de la grosse tour de Châteaudun. Depuis, il s'est montré plusieurs fois et l'année dernière, en 1857, tout le pays était en émoi parce qu'une bergère l'avait vu dans un buisson. Plus de 50 chasseurs étaient sur pied pour le chercher, mais comme de coutume, on ne le trouva point. » Donc voilà pour ces premiers ancêtres du dragon, qui sont les serpents géants, les serpents sacrés dans l'Antiquité et les serpents géants qui vont en découler. Deuxième ancêtre du dragon, les hydres. Donc l'hydre est une sorte de serpent qui possède plusieurs têtes. L'hydre la plus célèbre, je pense, est celle qui a été vaincue par Hercule, à laquelle certains auteurs donnent plus de 100 têtes. Donc, on trouve dans l'Apocalypse de Jean, dans le Nouveau Testament, une hydre célèbre. C'est le grand dragon qui va combattre l'archange Saint-Michel. Un second prodige parut aussi dans le ciel. C'était un dragon roux qui avait 7 têtes et 10 cornes et 7 diadèmes sur ses 7 têtes. Il entraînait avec sa queue la troisième partie des étoiles du ciel et il les fit tomber sur la terre. Alors il y eut un grand combat dans le ciel. Michel et ses anges combattaient contre le dragon, et le dragon, avec ses anges, combattait contre lui. Et ce grand dragon, cet ancien serpent, qui est appelé Diable et Satan, qui séduit tout le monde, fut précipité. Il fut précipité en terre et ses anges avec lui. Voilà donc le serpent dragon, associé déjà dans l'Antiquité à je viens de faire 6 heures de route, c'est l'enfer, pardon, excusez-moi, j'ai pas la tête en face des trous. Je sais plus. Ah si, associé au diable, pardon. Alors, au Moyen-Âge et bien plus tard, les nombreuses représentations de cette scène vont faire de l'hydre un dragon. Je n'ai pas porté là d'image, mais j'en avais, mais bon. C'est-à-dire que partout où on voit ce texte que je viens de vous lire tiré de l'Apocalypse de Jean, l'image en retour est un dragon tel que nous le connaissons. Curieusement, malgré son caractère fabuleux, l'hydre est toujours présente dans les premiers manuels de zoologie, même si les savants, certains savants, s'interrogent sérieusement à son sujet. Le naturaliste suisse Konrad Gesner publie cette figure de l'hydre, qu'il appelle l'hydre fabuleuse. Il dit que c'est un animal à la queue bouclée, portée par 2 pattes, et chacune de ses 7 têtes est surmontée d'une espèce de couronne, un petit comme l'hydre en fait de l'Apocalypse. Gesner explique que cet horrible dragon fut ramené de Turquie à Venise en 1530. Après avoir été exposé en public un certain temps, l'hydre fut envoyé au roi de France, précieux cadeau, puisqu'on estimait alors sa valeur marchande à 6000 ducats. D'après une chronique suisse, déjà en 1499, le 26 de mai, on n'est pas loin, on avait vu à Lucerne une grande hydre d'une grosseur prodigieuse, de la longueur de 8 coudées, avec des oreilles de la grandeur de celle d'un veau. Cette monstrueuse bête nagea dans le lac jusqu'au pont de la Reuss et suivit le cours d'eau, dit-on. Au XVIIIe siècle, le zoologiste Albert Seba donne lui aussi le portrait d'une hydre à 7 têtes, portrait réalisé à partir d'un animal naturalisé exposé à Hambourg. Voici ce qu'il écrit. Voici la représentation de l'animal qui passe pour le serpent à 7 têtes. Un étranger qui, en 1720, me fit l'honneur de venir voir mon cabinet de curiosité naturelle, m'en donna le premier la figure. Cet étranger me disait avoir vu l'animal même à Hambourg, qu'il ressemblait à un serpent à 7 têtes élevées, ayant chacune la gueule béante, armée de grandes et de petites dents, que du reste il avait seulement 2 pattes et une longue queue, de sorte que, quoi qu'il passât pour un serpent à 7 têtes, il approchait néanmoins davantage d'un dragon que d'un serpent. J'avoue que cette relation me parut fort paradoxe et tenir plus de la fable que de la vérité, mais l'année suivante, un ministre du Saint-Évangile, venant un jour voir mon cabinet, me raconta la même chose de cette hydre et me promit de m'en procurer la figure tirée d'après cet animal qui est à Hambourg. Non, ce n'est pas celui-là. Dans les années 1880, donc ce n'est pas très très loin, les paysans de Moncontour, en Bretagne, dans les Côtes d'Armor, racontaient que les anciens du pays avaient vu s'envoler un serpent à 7 têtes, gros comme le bras d'un homme. L'un d'eux avait tiré un coup de fusil sur la bête sans parvenir à l'atteindre, mais son compagnon, plus adroit, était parvenu à lui couper une tête, laquelle tête repoussa aussitôt comme bonne hydre, toute bonne hydre. Alors là, c'est l'image suivante, c'est encore un troisième ancêtre du dragon, c'est le basilic. Donc le basilic, appelé aussi Régulus, petit roi, déjà connu dans l'Antiquité et cité à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, est un petit serpent très dangereux dont on va retrouver la croyance jusqu'au XIXe siècle et qui va devenir au XIXe siècle en quelque sorte avec les vouivres, qui va devenir l'avatar du dragon. C'est-à-dire, ce sont des petits dragons dont on dit qu'ils existent encore. À chaque fois qu'une croyance est en train de s'affaiblir, de disparaître, étrangement, l'objet de cette croyance diminue. Donc, on n'a plus de gros dragons, mais on a des petits dragons. C'est pareil pour les grottes de fées, par exemple, dont je parlerai demain. Si la croyance diminue, l'entrée de la grotte va rapetisser. Et lorsqu'on n'y croit plus, les entrées sont encore plus petites. Chez les Romains, il est présenté par Pline, donc au 1er siècle, comme un serpent de la Libye qui a 12 doigts de longueur et dont la tête porte une tache blanche en guise de diadème, d'où son nom de Régulus, ou petit roi. Donc, on dit qu'il met en fuite tous les serpents par son sifflement. Il ne s'avance pas comme les autres en se repliant sur lui-même, mais il marche en se tenant dressé sur la... Alors, c'est pas celui-là, hein, mais vous allez voir. Sur la partie moyenne de son corps. Il a une haleine qui tue. Et là, on va retrouver notre dragon. Il brûle les herbes. Il brûle les pierres, tant son venin est actif. On a cru jadis que tué d'un coup de lance porté du haut d'un cheval, il causait non seulement la mort du cavalier, mais du cheval lui-même, le venin se propageant depuis la lance, en fait. Donc au fil du temps, le basilic va être décrit sous plusieurs formes. Précédemment. Image précédente. Merci. Donc au Moyen-Âge, le basilic est censé naître d'un œuf de coq. Parfois, un œuf de coq couvé par un crapaud. Et donc, sa couronne devient une crête. Il a la queue serpentiforme, des petites ailes. Et on trouve, là, cette image-là est tirée du livre d'Aldrovaldi en 1640, mais on trouve beaucoup de miniatures au Moyen-Âge et beaucoup d'enluminures où on voit des basiliques, et ces basiliques sont aussi des basilicoques, en quelque sorte. Alors voilà un basilic qui ressemble plus au basilic de Pline, et pourtant ce basilic daterait de 1723. Il aurait été vu en Suisse par un paysan, qui habitait près de Zurich et qui attesta au pasteur du lieu avoir vu à plusieurs reprises ce basilic. La première fois, il dit qu'il avait environ 9 ans et se trouvait en compagnie de son père. La seconde fois, c'était alors qu'il labourait les champs. Donc il décrit la bête, il dit qu'elle était longue de 4 pieds, montée sur 4 pattes. Les pattes avaient la longueur d'environ 2 pouces. Il avait le cou de la grosseur d'un bras d'homme avec un cercle de couleur jaune autour. Le reste du corps de l'animal était noir il avait une couronne jaune sur la tête. Et donc, le savant qui publie ce témoignage publie également cette image de basilic. Autre image de basilic. Dans le Gers, on donne à la fin du XIXe siècle la description d'un basilic qui s'était réfugié autrefois dans un puits à Mauvezin. Il faut dire que tous les témoignages qu'ont recueillis les folkloristes du XIXe siècle au sujet des basiliques les font toujours habiter dans les eaux croupies d'un puits. C'est la demeure du basilic, la plus courante en tout cas. Donc le récit explique que ce basilic-là, il avait sa petite couronne, mais qu'il avait l'apparence d'une loutre avec une couronne donc sur la tête. Et cette image-là est tirée, encore une fois, du livre des animaux d'Ulysse Aldrovandi. Dans les récits populaires, quelle que soit sa forme, donc je vous l'ai dit, le basilic se réfugie dans les puits. Et on lui attribue, c'est pas un hasard, c'est parce qu'on lui attribue les exhalaisons, il ne faut pas que je fasse des conférences à précise heure de route, nocives provenant des eaux croupies qui stagnent au fond. Alors, dans une description de la ville de Dinan, dans les Côtes d'Armor, toujours publiée en 1635, il est relaté l'histoire d'un basilic qui aurait tué 100 ans auparavant un grand nombre de personnes par sa seule présence dans le puits qui était situé sur la place du marché. Et nous dit l'auteur de ce témoignage, qui doit être dans des annales, je pense, oui, ce puits depuis fut comblé de chaux vives pour éviter qu'un autre basilic n'aille s'y promener. Donc l'haleine du basilic est mortelle. Déjà au début du XVIIe siècle, le démonologue Henri Boguet, qui fut grand juge en Bourgogne et à qui on doit beaucoup de bûchers à la belle époque de la chasse aux sorcières, écrit que le basilic, qui naît de l'accouplement d'un coq et d'un crapaud, possède un venin tellement puissant qu'il peut tuer d'un simple regard. Donc là, on passe de l'haleine au regard, on retrouve un petit peu notre Draco. Donc, au XIXe siècle, on raconte que plusieurs puisatiers, comme ça, furent tués dans le grand puits de la ville de Marseille. Voilà, on avait décidé de faire curer ce puits et on envoyait un puisatier. Le puisatier mourut probablement parce qu'il y avait des choses toxiques dans ce puits. Et on en envoyait un deuxième, il ne remonta pas, un troisième. Et donc, on dit, voilà, il y a un basilic. Mais il y a quand même un moyen de venir à bout du basilic. Parce que le basilic tue de son regard. Sauf que, comme la gorgone, s'il se regarde lui-même, il va mourir. Et donc les hommes ont trouvé cette parade. Et dans l'histoire de Mauvezin que je vous racontais, dont je vous parlais, c'est comme ça qu'ils vont tuer le basilic. On va envoyer un miroir, le basilic va se voir, et immédiatement, il va s'auto-tuer. Et ça, c'est dans les récits populaires liés au basilic, c'est une donnée excessivement courante, le fait qu'on va tuer le basilic avec son propre regard. Donc, les premiers zoologistes sont partagés sur l'existence du basilic. Au XVIe siècle, le Suisse Gessner, Konrad Gessner, lui, va s'insurger contre cette superstition. Il dit qu'en fait, ce sont des commérages de bonnes femmes. Toutefois, malgré cela, des siècles plus tard, on continuera dans les campagnes à craindre le basilic. Alors, dernier ancêtre, et après on passe au dragon proprement dit, dernier ancêtre, comment ça se fait que c'est si grand ? Dernier ancêtre du dragon, les serpents volants. Voilà où le dragon va trouver ses ailes. Au Ve siècle avant notre ère, le grand historien et géographe grec Hérodote affirmait avoir vu des ossements de serpents ailés en Basse-Égypte. Voici ce qu'il écrit. Il y a dans l'Arabie, assez près de la ville de Buto, un lieu où je me rendis pour m'informer des serpents ailés. Je vis à mon arrivée une quantité prodigieuse d'os et d'épines du dos de ces serpents. Il y en avait des tas épars de tous les côtés, de grands, de moyens, de petits. Le serpent volant ressemble pour la figure aux serpents aquatiques. Ses ailes ne sont point garnies de plumes, elles sont entièrement semblables à celles de la chauve-souris. Et nous avons ici, donc au 5e siècle avant notre ère, la première mention de ces ailes de chauve-souris qui seront très souvent associées aux dragons volants. Mais cela dit, il est quasiment certain que ce qu'a vu Hérodote, ce sont des fossiles, et des fossiles de sauriens probablement. Dans les années 1550, donc c'est la bonne image, merci. Dans les années 1550, Gessner, dans son Histoire des animaux, non, la précédente, c'est bon, donne cette image donc, de serpent volant qu'il classe dans son chapitre sur les dragons. Vers la même époque, on raconte qu'un paysan de Saintonge, attaqué par un serpent volant, lui fit face armé de sa houe et réussit à l'abattre. Cette fois-ci, les ailes du reptile étaient couvertes de plumes. On dit que beaucoup de savants vinrent l'admirer et qu'on alla même montrer la dépouille à Paris à François Ier, au roi. Image suivante. Au XVIe siècle, le serpent ailé attire beaucoup, évidemment, les amateurs de curiosité et Gessner va mettre en garde ceux qui voudraient s'en procurer, donc pour leur cabinet. Des apothicaires et colporteurs divers transforment en serpents, basiliques et dragons des corps de raies. Dans ce but, ils les coupent, les tordent, les étirent de mille manières. J'en présente ici, dit-il, une image afin de dépister toute supercherie de ce genre. Voilà, donc comme on peut le voir, non ? Comme on peut le voir sur l'image précédente. On voit pas la. C'est pas possible de les diminuer un petit peu ? Voilà, donc en fait ce sont les narines de la raie qui deviennent des yeux et après on fabrique, vous voyez bien comme ça quand même ? Ou vous voulez un peu plus grand ? Ça va ? Et donc avec les nageoires de la raie on faisait, on gardait la queue de la raie, on faisait des, et on vendait des ailes et on vendait ça évidemment aux amateurs de curiosité en prétendant qu'il s'agissait de serpents volants. Ces serpents volants vont continuer d'alimenter la chronique longtemps. En 1650, un certain Michel Dumas, tondeur de son état, chassé près de la fontaine de Vaucluse en Provence, avec deux compagnons, l'un d'eux tira sur une bête qu'il voit tomber, mais qu'il ne purent discerner. Le pauvre homme affirma qu'il venait de tuer le diable et s'évanouit. Mais en fait, il s'agissait, paraît-il, d'un serpent volant d'un mètre de long, un serpent volant à tête de chat, avec donc deux ailes. Donc ils l'écorchèrent et ils le vendirent à un apothicaire pour faire des breuvages. Encore plus près de nous, si on peut dire. En 1751, le père Don Calmé de l'abbaye de Senones raconte qu'un serpent ailé vola plusieurs fois en 1726 sur la ville de Badonvillers en Meurthe-et-Moselle. Il précise qu'il avait des ailes comme celles d'une chauve-souris, son vol était bruyant et son corps serpentiforme, c'était un animal d'une grosseur énorme. Alors, il y a comme ça toute une série, je vais vous donner encore un ou deux exemples du 19e siècle, de descriptions de serpents ailés qui sont, pour certains témoignages, assez étonnants, parce que ça ressemble en fait à des avions pour certains, à des premiers avions, à des avions plus... Des fois... On a même l'impression, on le verra avec les vouivres, qu'on a affaire à des espèces d'ovnis du Moyen-Âge. C'est très curieux. Ou en tout cas à ce qui ressemble au témoignage d'ovnis qu'on aura plus tard. Alors la vouivre, justement, ben, je vais vous en parler. Cette vouivre, elle est surtout fréquente en Bourgogne et en Franche-Comté. Dans ces régions, elle se présente généralement comme un serpent ailé qui peut être très grand, jusqu'à 4 mètres de long, dit-on, mais qui a la propriété d'avoir, et c'est ça qui est un petit peu étonnant, un œil unique au milieu du front, qui est en fait un phare, et qui projette une lumière devant elle, et c'est à ça qu'on reconnaît la vouivre dans le ciel. Alors, il est possible aussi que ça soit une comète, une étoile filante, enfin bon, mais tout un tas de choses qu'on prenait pour des animaux fantastiques. Hein. Mais des fois, et j'ai souvenir d'une chronique du XVe siècle d'abbaye où on raconte que le diable tombe sur l'abbaye, que déclenche du coup un incendie. Et que, étrangement, ce diable repart dans le ciel et disparaît. Et les paysans du coin qui racontent l'histoire, dit la chronique, expliquent qu'en fait, c'est une vouivre qu'ils ont vue dans le ciel. Alors, cette pierre alors, qu'il aurait, donc cette espèce de diamants, on dit des fois, que la vouivre aurait au milieu du front et qui lui sert à voir dans la nuit, cet œil unique pour d'autres, va faire l'objet de tout un tas de contes populaires où on essaie d'enlever le diamant de la vouivre quand la vouivre va se désaltérer, par exemple. Enfin, c'est même pas par exemple, c'est toujours. Quand elle va se désaltérer, elle pose, on ne sait pas pourquoi, mais son diamant par terre. Et évidemment, des paysans essaient de s'emparer de ce diamant, n'y arrivent bien entendu jamais. Voilà. Donc voilà pour les grands ancêtres du dragon, les serpents géants, les hydres et les serpents volants. Maintenant, nous allons passer aux différentes espèces de dragons proprement dites. Donc, au Moyen-Âge, dès qu'il est question de dragons, même si, je vous l'ai dit, le texte décrit un serpent, les imagiers vont dessiner une bête à la queue serpentiforme, avec 2 ou 4 pattes, avec ou sans ailes. Alors, la question qu'on se pose, c'est, on a vu les grands ancêtres, mais où donc ont-ils été pêchés cette image de grand saurien? Alors, mon hypothèse, quand même, c'est qu'on avait, on n'a pas attendu la période moderne pour trouver des fossiles, et des fossiles de dinosaures ou d'autres sauriens du même type, et que pour le coup, c'était facile avec ces fossiles, de plus les récits qu'on entendait, qui avaient été rabâchés, les histoires des saints qui avaient vaincu les dragons qui étaient des serpents, mais enfin bon, tout ça est un espèce de méli-mélo hybride, très syncrétique, qui va donner naissance donc à ce dragon. Nous savons par exemple qu'en Suisse, en 1602 et je ne sais plus, en 1689, on a trouvé des morceaux de squelettes d'ours et immédiatement, on est au XVIIe siècle et à la fin du XVIIe siècle, immédiatement on a dit c'est un dragon. Et puis après on a dû convenir que non, ce n'était pas un dragon, mais ce n'était qu'un ours. Malgré tout, les zoologistes du XVIe et XVIIe siècle vont présenter des reproductions de dragons qu'ils possèdent dans leur cabinet ou qui leur ont été signalés par des témoins. Alors, ces dragons sont de taille relativement réduite, 1 mètre ou 2, évidemment, ils n'ont pas des grands dragons chez eux. Mais ces dragons ont différentes formes, et sont de diff... Non, on laisse la précédente, je te dirai quand on passera à la suivante. Voilà, donc, une première espèce de dragon. Donc ce dragon-là aurait été trouvé à Bologne en 1572. Et donc c'est encore une fois donc, le naturaliste Ulysse Aldrovandi qui l'avait dans son cabinet. De curiosité, il avait la dépouille de ce dragon. Donc il a été vu la première fois le 13 mai 1572, sifflant comme un serpent. Il s'était caché, puis il a été attrapé. Près de Bologne, etc. Et bon, voilà, on l'a porté après. Il a atterri après chez Aldrovandi, qui était très friand comme les autres naturalistes aussi, de ce genre de découverte et de petits dragons. Donc ça, c'est le dragon, en fait, bipède, sans ailes. C'est le prototype. Autre forme de dragon, le dragon quadrupède, sans ailes. Suivante. Alors, deux témoignages évoquent ce type de dragon en Suisse. Le premier dragon dont il est question est de taille humaine, c'est celui qui est représenté sur cette image. Il aurait été vu en 1660 par un certain Rodunaire, voilà, qui l'a rencontré, qui a eu peur, parce que le dragon s'est levé sur ses deux pieds de derrière, grand comme un homme. Son corps était couvert d'écailles rudes, il avait une crête, encore une fois, il avait une longue queue de serpent. Et il a fait peur à tout le monde, tant et si bien que les deux personnes, Rodunaire et son frère, sont finis par se sauver. Le deuxième témoignage est celui d'un pasteur en 1702 qui raconte aussi avoir vu un dragon comme ça à quatre pattes, à tête de chat, couvert d'écailles. Et ce dragon a fini par être tué, mais on l'a laissé pourrir sur place, dit-on. Voilà, personne ne l'a ramassé, mais le texte termine en disant « Les habitants du pays assurent que l'on voit souvent des dragons de cette espèce. » Donc voilà pour les dragons bipèdes et quadrupèdes sans ailes. Alors maintenant, un dragon ailé bipède, qui est une autre espèce de dragon. Donc, c'est aussi un dragon que possédait dans son cabinet Ulysse Aldrovandi. Il l'appelle le dragon éthiopien parce qu'il viendrait d'Éthiopie. Donc, il n'en dit pas grand-chose dans son livre, si ce n'est que voilà, c'est un dragon qu'il a acheté et qu'il a gardé. Donc, c'est un bipède à deux pattes, ailé. On va voir un autre bipède ailé qui est un peu différent. On ne voit pas trop bien, bon, ça fait rien, on va le laisser comme ça. Donc en 1553, là c'est un zoologiste français qui s'appelle Pierre Belon qui donne le portrait de cet animal, qui le reproduit donc dans son livre. Et il dit que c'est lors d'un voyage en Égypte qu'on lui a montré des corps embaumés et tout entiers de serpents ailés et qui ont des pieds et qui viendraient d'Arabie. Voilà, donc il en a... récupérer un, en tout cas il en a fait dessiner un. On ne dit pas s'il en avait un dans son cabinet. Au XVIIe siècle, en Suisse, alors pourquoi en Suisse? Parce qu'il y a eu en particulier deux livres écrits sur les dragons suisses, donc on a énormément de témoignages. Beaucoup de dragons de cette espèce disent avoir été vus, notamment au XVIIe siècle. Et l'image qu'en donne le naturaliste Kircher ressemble vraiment, je ne sais pas si je l'ai mis derrière, non, mais ressemble à celui-là, et il l'appelle le dragon helvétique, donc pour le coup. Alors, on arrive au bout. On a vu donc ces différentes espèces de dragons. Il y a très rarement, vous allez en voir un à la fin, mais qui n'est pas un dragon de zoologiste, mais on a très rarement de dragons ailés à quatre pattes, y compris au Moyen-Âge. Quand on montre des dragons ailés, on montre des dragons ailés à deux pattes. Donc voilà pour les espèces de dragons que nos premiers zoologistes, nous ont offerts. Et je vais juste m'arrêter pour finir sur deux caractéristiques des dragons. Tout d'abord, le fait que les dragons, donc là il n'y a pas d'image, le fait que les dragons sont amphibies. Il y a de nombreux témoignages qui expliquent que, à la façon des crocodiles, était-ce des crocodiles, qu'on a vu dans tel ou tel fleuve un dragon qui remontait le fleuve ou qui était sur les berges du fleuve. Voilà. Et donc, le dragon passe du coup pour être un animal amphibie. Et deuxième caractéristique, donc là il y a une image, on va voir un dragon à quatre pattes. Deuxième caractéristique, eh bien, c'est le fameux feu que crache le dragon. Donc ce feu, il offre des discussions, aussi bien chez les anciens et les modernes, chez les savants et dans les discours populaires. On parle beaucoup de l'haleine pestilentielle du dragon. D'ailleurs, au Moyen-Âge, on dit que cette haleine, elle est tellement empoisonnée que c'est elle qui donne la peste. C'est-à-dire qu'elle peut envoyer, quand on voit un dragon dans le ciel, l'haleine qu'il dégage, l'haleine soufrée qu'il dégage, eh bien, peut déclencher des maladies et peut déclencher, y compris, la peste. On a rapproché, en tout cas moi je rapproche, cette haleine soufrée des volcans. Parce que on a aussi pas mal de témoignages qui font habiter les dragons dans des montagnes creuses ou dans des grottes. Un animal qu'on retrouve aussi sous la terre. Et on explique d'ailleurs, les zoologistes qui recherchent expliquent que si on ne les voit pas, c'est parce qu'ils se cachent, ils sont dans des souterrains, dans des grottes, etc. Et donc c'est pour ça qu'on ne voit pas les dragons. Et du coup, ce dragon qui est sous terre et qui crache du feu, c'est aussi une image du volcan dont au Moyen-Âge on se demande ce que c'est. Et voilà, l'idée qu'il y a une bête de dessous et que cette bête qui crache le feu, ça peut paraître tout à fait logique. Ensuite, autre hypothèse, pour ceux qui vraiment, là ce n'est plus la laine, mais vont cracher du ciel dans le feu, on a aussi beaucoup de témoignages où du Moyen-Âge jusqu'au 19e, où on voit passer un dragon dans le ciel qui crache du feu. Là, vraisemblablement, on est sur des astéroïdes, on est sur des comètes, on est sur des étoiles filantes. Voilà, c'est pas à l'Oria comme ça. Je ne vais pas vous les lire. Alors, dernière petite anecdote sur le dragon, la pierre qu'il aurait dans la tête, la dragonite. Donc c'est Pline, encore lui, qui au 1er siècle écrit que le dragon possède dans son cerveau un élément d'une grande valeur, une pierre, qu'il va appeler la draconite, venant du draco. Mais nous explique l'auteur, si l'on veut en avoir de fines, il convient d'extraire ces draconites alors que le draco est vivant, faute de quoi, se sentant mourir, il la gâte par envie. Il faut donc attendre qu'il soit endormi, quitte à répandre sur lui des drogues assoupissantes pour lui couper la tête et lui arracher sa précieuse pierre. Donc Pline parle du draco, il parle donc du serpent. Tout cela paraît vraiment relever de fables antiques, sauf que, au XIXe siècle, la pierre du dragon volant de Lucerne en Suisse, ramassée par un paysan après le départ de l'animal, va défrayer la chronique. Après être resté pendant 80 ans dans la famille de son propriétaire, le petit-fils, couvert de dettes, va la mettre en gage chez un chirurgien qui va refuser de la lui rendre, parce qu'il va soigner avec. L'aventure se terminera devant les tribunaux. En 1523, après presque 20 ans de discussion, le conseil de Lucerne accorde la pierre au chirurgien et dresse acte. Après avoir rappelé que cette draconite provient d'un terrible dragon, il ajoute qu'elle a été désirée par un empereur, par divers rois, princes et nations, et notamment par la République de Venise, pour ses propriétés thérapeutiques. Sont alors cités tous les témoins de bonne foi, les médecins qui l'ont examinée et qui la décrivent comme une sorte de boule un peu plus grosse qu'un œuf de pigeon. Elle a la dureté du fer. Sa surface est lisse, le fond de la couleur est brun, avec des lignes blanches, rouges et noires plus ou moins distinctes. La bande ou zone qui la partage en deux hémisphères est large de 6 lignes, blanchâtres, striées, de petites lunules plus foncées, en forme de croissant. Son poids est de 9 onces, c'est-à-dire à peu près 250 grammes. On est au XVIe siècle, et on est au XVIe siècle convaincu que cette pierre miraculeuse qui guérit les gens provient bien d'un dragon. Voilà ce que j'avais à vous dire. J'espère que ça n'a pas été trop barbant et trop long. Et si vous avez des questions... J'ai endormi tout le monde, c'est ça ? Oui. Oui. Ah oui, oui, bien sûr. C'est un dragon. C'est un dragon. C'est une histoire de Sainte Sorocton, la Tarasque. Absolument. D'ailleurs, on a plusieurs représentations différentes de la Tarasque. Des fois, elle ressemble à une espèce de grosse loutre avec plein de pattes. D'autres fois, mais bien sûr, oui, oui. Ça fait tout à fait partie de ces différents dragons qu'on retrouve dans les récits qui vont être rassemblés au XIIe siècle par Jacques de Voragine dans la Légende dorée. Et là, on va retrouver... Et ce livre de la Légende dorée a été un vrai best-seller pendant plusieurs siècles. Il faut savoir quand même que pendant longtemps, ces récits... Se rappeler de veiller en veillée quand on se réunissait pour économiser le bois et la chandelle le soir. Mais les curés de village ont été particulièrement actifs dans la mémoire des traditions populaires pour faire peur aux gens, etc., le dragon, pour raconter ces récits-là, et que tout ça se tricote après, et puis que de conteur en conteur, de récit en récit, on enjolive un petit peu, etc. Ceci dit, ce qui est excessivement curieux quand même, ce sont toutes ces bêtes que les zoologistes ont ramassées dans leur cabinet parce qu'ils les reproduisent. Et tous ont consacré un chapitre sur les dragons, tous. Mais bon, la plupart du temps, les dragons, on les imagine dans d'autres pays. D'ailleurs, il y a un animal aujourd'hui qui s'appelle le dragon, qui est une espèce de petit lézard volant, voilà, qui s'appelle le dragon. Mais c'est pas du tout le dragon tel qu'on l'imagine. Mais ce qui est fascinant, c'est de voir que encore aujourd'hui, dans les films de fantasy, etc., je veux dire, le dragon, il est omniprésent. C'est vraiment l'animal fabuleux par excellence qui a duré beaucoup plus que le griffon. Bon, la licorne, on n'en parle même pas. Elle appartient même pas au récit populaire. C'est vraiment un mythe chrétien et qu'on ne retrouve pas du tout chez le peuple, mais le dragon, vraiment, il va continuer sa vie sous la forme de ce petit basilic, justement, qui est cette espèce de petit dragon, des vouivres, mais on est persuadé quand même qu'ils ont existé. Voilà. Soit ils n'existent plus, soit ils existent encore très loin, mais on est persuadé qu'ils ont existé. Et ces premiers naturalistes, donc ces premiers zoologistes, eh ben, eux... Il se pose pas la question. Voilà, c'est un animal. C'est pas plus fabuleux que d'autres animaux qu'ils n'ont jamais vus, rhinocéros, éléphants, etc. C'est pour nous, évidemment, qui sommes habitués maintenant à la connaissance de tout un tas d'animaux qui ne vivent pas en Europe. Bon, voilà, on les connaît, on les a vus, ils sont dans les zoos, ils sont dans des reportages, etc. Mais à l'époque. Ces animaux, on les découvrait, donc ils n'étaient pas... Et puis, il y a dans les livres des zoologistes, il y a des choses encore plus... Il y a les hommes marins, par exemple, il y a des animaux à tête d'homme, il y a des trucs très, très bizarres, quoi, dont on ne sait pas vraiment si ça existait. Enfin, donc, je m'étonnerais. Des hommes marins... Encore que les sirènes, on y a cru très 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 longtemps, hein, jusqu'au XXe siècle. Hein, on croyait les paysans... Quand je dis paysans, ce n'est pas péjoratif. Hein, ce sont les gens du pays qu'on appelle les paysans. Paysans, ça vient de païens. C'est-à-dire ce sont eux qui ont été les plus compliqués à christianiser. Les villes se sont christianisées relativement vite. Mais jusqu'au IXe, Xe siècle, les paysans continuaient... À pratiquer des rituels qui étaient des rituels païens. Alors des fois dans des fontaines qui avaient été christianisées, peu importe, mais le rituel, lui, il continuait à être païen. Et on le sait parce que quand on dépouille les conciles, les canons de conciles, ce que j'ai fait, on retrouve jusqu'au 10e, 11e siècle des injonctions où on dit, où les curés disent... où les canons disent aux évêques de dire aux curés qu'il faut qu'ils disent aux paysans qu'on ne doit plus apporter des cierges devant les pierres levées, qu'on ne doit plus apporter des chandelles et aller honorer les fontaines, les arbres sacrés, etc. etc. Ce qui prouve que c'est ce que les folkloristes du 19e ont appelé le culte de la nature, arbres sacrés, pierres sacrées, eaux sacrées, perdurer. Et perdure encore parce qu'il y a encore ces rituels encore aujourd'hui dans certains lieux. Voilà, je me suis un peu écartée des dragons, mais c'était pour recontextualiser ces récits. Oui. Non, parce que c'est trop loin. Alors je dis non, j'en sais rien. Il est possible qu'en Italie on ait gardé une dépouille, mais enfin, je ne sais pas quels étaient les procédés qui avaient été utilisés pour les embaumer. Encore qu'on embaumait, on embaumait bien dans l'Antiquité, je ne suis pas sûre qu'on embaumait aussi bien à la Renaissance. Donc, j'en sais rien, en fait. Mais c'est une très bonne question. Merci de l'avoir posé, je vais me renseigner. Non, mais peut-être que ces animaux sont là quelque part, mais il y a eu très peu d'études en fait sur les dragons. Et moi, j'avais publié un bouquin il y a quelques années, mais mon éditeur a fait faillite. Donc le bouquin s'est envolé. Il y a eu très peu de recherches en fait finalement sur les dragons. C'est assez compliqué de retrouver des choses, enfin de faire le puzzle. Oui. Jamais, non. Non, ce sont des bêtes. Ce sont des bêtes. Les seuls êtres surnaturels qui parlent, ce sont les fées et les lutins, c'est tout. Aucun animal fantastique ne parle dans les récits et les mémoras, c'est-à-dire les mémoires, les témoignages qui se sont transmis de génération en génération. Voilà. De la même façon, les fées n'ont pas d'ailes, hein, jamais. Donc voilà. en France, tout le moins. Je suis désolée. On n'a pas d'elfes non plus, mais bon, il y en a ailleurs. Chantal. Ah, vas-y. Prends le micro, Chantal, viens là. Bah si. Si t'apportes un témoignage, viens là. Allez.
Oui, comme tu le sais, et ne le savent pas forcément les personnes qui sont là, j'ai travaillé à la DRAC, PACA, entre autres. Et DRAC, le mot parle, hein? Parce que dans le... Alors, la DRAC, c'est une chose très, très... très différente, mais il y avait notamment en Provence des dracs, enfin, qui vient du draco, mais qui étaient des petits dragons en somme, et plutôt des dragons des eaux. Or, et c'est pour ça que je vous parle de la drac, mes collègues archéologues, ceux qui fouillent actuellement, parce que ça continue, parce qu'on n'arrête pas de trouver, ceux qui fouillent le Rhône, en face d'Arles, vous savez qu'on a trouvé plein de choses romaines, on a retrouvé la tête de Jules, César, pas le vrai, mais sa copie de son vivant. Bref, ils continuent à fouiller et ils ont fait beaucoup de reportages. Il y a même France 3 qui était venue pour les voir fouiller, etc. Et ses collègues donc, d'archéologie sous-marine se font régulièrement attaquer par d'énormes poissons qui sont les silures. Et le silure, quand on en voit un de près, notamment la tête, ça a franchement une tronche de dragon. Donc, mes collègues, notamment Luc Long, me disaient Peut-être que dans cette légende du drac, du dragon, il y a une réalité qui serait que les silures, il y en a toujours eu, moins peut-être que maintenant, mais qui remontaient le Rhône et d'autres rivières. Donc, pour eux, ça pourrait être ça. C'est des bêtes extrêmement méchantes, alors qui ne dévoreraient pas un humain, mais qui peuvent arracher. Hein. C'est nos requins, en fait, quelque part. C'est nos requins.
Oui, c'est le clerc anglais Gervais de Tilbury, qui fréquente la cour du roi Henri II de Plantagenet, qui en 1215, dans son livre Ossia Imperalia, va parler du drac dans le Rhône qui enlève une nourrice pour nourrir ses petits. Et effectivement, on ne sait pas trop ce que c'est, mais c'est une espèce de dragon. On l'appelle le drac. Et dans le Languedoc, on parle des draquets, qui sont aussi des petits dragons. Sauf que les dracs en Auvergne, ce sont des lutins. Et que du coup, ces lutins n'ont rien à voir. Ce sont des lutins facétieux, comme tous les lutins. Et les lutins, quel que soit leur nom, ils font à peu près tous la même chose. Hein. Ils font des petites choses dans la maison. La plupart du temps, ce sont des avatars de poltergeist, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y avait déjà, enfin il y a toujours eu des poltergeists, parce que moi j'en ai relevé dans l'Antiquité, et des meubles qui bougeaient, des pierres qui tombaient sur la maison, voilà. Et donc on attribuait ça aux lutins. Maintenant on attribue ça à des émotions. Il y a des chercheurs qui travaillent dessus à l'Institut Métapsychique International. Mais voilà, on attribuait ça aux lutins. Et donc au drac, mais qui se métamorphosait. C'est vrai qu'il se métamorphose en tout, le drac. Il se métamorphose en pelote de fil, il se métamorphose. C'est un lutin il fait partie des lutins, oui, qui peuvent comme ça se métamorphoser en différentes formes. Il y en a d'autres en France. Enfin bon, voilà. Mais oui, tu as raison. J'en parle pas parce que c'est voilà. Mais tu as raison que le. En plus, Mistral va faire reprendre cette légende donc du XIIIe siècle et va faire un très beau poème qui s'appelle le poème du Rhône, où il va parler du fameux drac qui laisse à la surface du ce que dit Gervais, il laisse à la surface du Rhône une coupelle pour attirer avec un bijou dedans, et puis hop, si on y va, on est happé. Puis une fois qu'on a nourri les bébés drac, on repart à la surface et puis tout va bien, on rentre chez soi quand ils sont grands, voilà. Il ne noie pas les gens, il les capture. Voilà, mais bon. Mais Gervais de Tilbury, ceci dit, c'est vraiment un auteur intéressant parce que dans ce livre-là, qui est en latin, il donne. On a très très peu de choses au Moyen-Âge sur les croyances populaires. Moi, je travaille que sur les croyances populaires liées au surnaturel. On a très peu de choses au Moyen-Âge et. On a les évangiles des quenouilles au XVe, bien sûr, mais. Là, ce texte-là du XIIIe siècle, il donne comme ça, il donne des histoires de fées, il donne des histoires de loups-garous, il donne des histoires de. C'est assez intéressant. Il est maréchal à la cour impériale du royaume d'Arles à l'époque, et donc il est bien placé pour recueillir des témoignages. Est-ce qu'il y a encore une question, ou est-ce qu'on va prendre l'apéro? Avec les dracs. Ah, il y en a un qui était dans la Meuse aussi, un espèce de dragon qui s'appelait le Mao. Une espèce de grosse bête, pas beaucoup décrite. Alors, il y a je me demande si c'est pas Léopold Sauvé, le folkloriste qui a écrit Le folklore des Hautes-Vosges, qui en parle. Du Mao et du Carnabo, de ces deux bêtes-là, mais bon, c'est pas. On pourrait les ranger dans les dragons, mais enfin, ils ne les rangent pas dans les dragons, ils les rangent dans des animaux fantastiques. Or, les animaux fantastiques, en fait, au Moyen-Âge, et au XIXe siècle, en tout cas, où on se rappelle de certaines choses, il n'y en a pas beaucoup, parce que n'importe quel animal peut devenir fantastique. Il suffit qu'il se comporte un peu différemment. Un âne ne veut pas, je sais pas, un comportement bizarre. On retrouve un animal à un endroit où on n'a pas coutume de le voir. Voilà. Et ben, tout d'un coup, cet animal devient un animal fantastique ou un lutin métamorphosé. systématiquement. Mais on n'a pas, en dehors de ça, on n'a pas beaucoup d'animaux fantastiques. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup de votre écoute et puis je vous souhaite une bonne soirée, messieurs, dames.